Deus idoneos nos fecit ministros Novi Testamenti, non litera sed spiritu. Litera enim occidit, spiritu sautem vivificat. Dieu qui nous a fait des ministres compétents du Nouveau Testament, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Car la lettre tue, et seul l'esprit vivifie, donne la vie. Et en parallèle, dans l'Évangile, notre Seigneur dit, « Je vous le dis, » dit à ses disciples, « beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez de vos yeux, » c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, « et ils ne l'ont vu que de loin. » Et comme le fait remarquer Saint Bède dans son commentaire, dans un autre évangile, il est dit « Beaucoup de justes et de prophètes ont voulu voir ce que vous avez vu et ne l'ont pas vu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et ainsi, selon diverses correspondances, c'est une des clés de l'interprétation de la Sainte Écriture, on en déduit que les rois dont notre Seigneur parle ici, ce sont les justes, justement. Donc, l'un l'a donné selon juste et l'autre selon roi, parce que les justes sont des rois. Ce sont des rois parce qu'ils savent gouverner le peuple de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions, de leurs intentions, de leurs affections. Ils savent les régir et ne pas se laisser dominer par eux, mais les dominer. Et en tant que cela, ils sont dignes enfants adoptifs de Dieu, et à ce titre-là, s'ils le font jusqu'à la fin de leur vie, ils pourront aller régner avec notre Seigneur au plus haut des cieux. Et Saint Paul nous dit, attention, Dieu nous a fait de compétents ministres du Nouveau Testament, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit, car la lettre tue et c'est l'esprit qui donne la vie. Ce sont des paroles très importantes pour comprendre, d'une part, la richesse de l'Écriture et la façon dont il faut l'entendre. Surtout l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament est beaucoup plus spirituel, et il n'y a pratiquement rien à redire, si on peut dire comme ça, on ne redit rien à la parole de Dieu, mais il n'y a rien à redire dans le Nouveau Testament, tandis que dans l'Ancien Testament, Saint Paul nous avertit, attention, si vous vous en tenez à la lettre, souvent, ça ne sera pas très édifiant. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les livres historiques, et dans les livres historiques, le Saint-Esprit nous a peint la réalité telle qu'elle est, avec l'histoire des rois, par exemple, et autres, avec leurs qualités et avec leurs défauts, avec leurs vertus et avec leurs vices. Et il y a des fois des choses qui ne sont pas du tout édifiantes. Par contre, quelquefois, même des choses qui ne sont pas édifiantes en elles-mêmes, dans le sens mystique et spirituel, en tant qu'ils sont figures de notre Seigneur, peuvent être entendues d'une autre manière et être très édifiantes. Si vous voulez apprendre, c'est important, puisque c'est la parole de Dieu, c'est notre Seigneur qui nous parle à travers la Sainte Écriture, les prophètes et les rédacteurs, c'est bien eux qui ont écrit, c'est leur style à eux, mais ils l'ont écrit sous la poussée et sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est le principal auteur de la Sainte Écriture. Et donc, encore une fois, quand on nous peint des choses qui sont pas très louables et même qui sont détestables, eh bien, ça n'est pas peint pour qu'on s'y complaise, mais c'est au contraire pour qu'on s'y regarde, comme dit le pape Saint Grégoire, comme dans un miroir. Et que l'on voit dans la vie des anciens patriarches et des membres de l'Ancien Testament, à la fois comment les vicieux se sont dégradés eux-mêmes peu à peu et se sont perdus et ont été châtiés, car souvent dans l'Ancien Testament, Dieu récompensait déjà ici-bas, d'une façon beaucoup plus visible que maintenant, parce qu'il importait que les gens se rendent compte tout de suite le bienfait de servir Dieu et se rendent compte vite aussi le méfait et le mal qu'on se faisait à soi-même en allant vers le vice. Et donc, Dieu châtiait plus facilement et récompensait plus facilement ici-bas. Et on a donc, dans ceux qui ont bien fait, un modèle pour les suivre, dans ceux qui ont mal fait, un modèle comme repoussoir pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Comme nous fait aussi remarquer dans son commentaire sur Job, son commentaire moral, le pape Saint Grégoire, on nous peint dans ces livres-là à la fois ceux qui sont vertueux et qui arrivent à résister à toutes les tentations, comme par exemple le bienheureux Job, qui a des tentations inimaginables. On avait fait tout un sermon là-dessus, hein, sur les épreuves de Job. Il perd tout, il perd ses enfants, d'abord ses biens, ses biens matériels, sa propre maison, ses enfants. On ne peut pas être éprouvé plus. Ah, attendez, on ne peut pas être éprouvé plus. Il est attaqué dans sa santé, il est malade, il a de la peau qui tombe, comme en putréfaction, il est comme sur un... Dieu a donné, Dieu m'a ôté, que son saint nom soit béni. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas beaucoup qui arriveraient à un degré de perfection comme ça. On voit aussi Tobie père, il ne fait que du bien, et comme en quelque sorte, parce qu'il est très élevé, c'est d'ailleurs l'ange qui va lui dire après, parce que tu plaisais à Dieu, Dieu t'a éprouvé par la tentation, par l'épreuve. Pourquoi ? Pour te purifier encore plus et pour te rendre encore plus parfait. Alors lui aussi fait du bien et puis ça lui retombe dessus en partie, le bien qu'il a fait. Alors au lieu d'en recevoir des bénédictions comme dans l'Ancien Testament, il en a encore de nouvelles épreuves. Une de ses épreuves les pires, c'est sa propre épouse qui ne tient plus, puis il dit « Ah ben c'est ça, continue à honorer Dieu et puis il meurt. » Ça a dû être le coup de poignard final qui lui a été donné. Et malgré tout, il est resté silencieux, il a offert sa douleur à Dieu, et il est resté fidèle. Donc voilà, nous dit Saint Grégoire, des modèles qui nous sont donnés déjà dans l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup d'autres d'actes qui sont magnifiques. Dans l'Ancien Testament, il y a les martyrs des jeunes Maccabées, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Et il nous montre aussi, par exemple, les 12 patriarches qui sont jaloux de leur petit frère Joseph. Et alors, ils le vendent. Alors, ils sont la figure des Juifs qui vont vendre notre Seigneur. Et en même temps, Joseph, lui aussi, il reste fidèle. Et il arrive à faire ce que, dans le Nouveau Testament, c'est pas si facile que ça à faire non plus. Quand il a l'occasion d'avoir ses frères auprès de lui, il les titille un petit peu pour leur faire regretter ce qu'ils ont fait. Il ne s'est pas encore manifesté à eux. Et alors on les voit qu'ils doivent sentir, il y a quelque chose dans cet homme qui les impressionne ou quoi. Ils ne savent pas que c'est leur frère, mais ils sentent quand même quelque chose. C'est très certainement leur rappel, leur frère Joseph. Et puis à un moment, ils sont bouleversés et autres. Et il arrive, alors qu'ils l'ont vendu, il arrive à leur rendre le bien et la bénédiction pour tous les maux qu'ils lui ont fait. Quelle vertu merveilleuse pour l'Ancien Testament. On voit de très belles choses dans le roi David, et puis on voit une chute lamentable. Il tombe lamentablement une question de mœurs. Et après, pour se rattraper, ça entraîne toute une série d'autres péchés et ça va jusqu'au meurtre. Quand on pense à la sainteté du roi David, quand on pense à lui l'auteur des psaumes et autres, il est obscurci par la chute, il est tombé en état de péché mortel, le Saint-Esprit s'est écarté de lui, il est aveuglé, etc. Mais le bon Dieu sait la faiblesse humaine, il en a pitié, il sait aussi le bon cœur de David, il lui envoie le prophète Nathan, et le prophète Nathan, par une parabole, lui fait regretter son péché, et dès qu'il a compris, dès que ça lui est revenu, et dès qu'il sait que c'est dénoncé et autres, alors il tombe à genoux et il demande pardon. Et cependant, Dieu va le châtier, et va même châtier pour une autre faute qui est beaucoup moins grave, et que Dieu n'avait demandé qu'on ne recense pas le peuple, et il l'avait fait quand même. Et du coup, puisqu'il mettait son orgueil dans le nombre de ses sujets, et Dieu va le punir par là même, il va envoyer une peste, et c'est des centaines et des milliers de ses sujets qui vont être frappés, et là encore, on le voit dans les psaumes, ils tombent de douleur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est moi qui ai péché, pourquoi vous frappez votre peuple? C'est moi qui ai péché. Oui, mais c'est vous qui êtes le roi. Et de même que le peuple est béni dans ses rois, il est aussi châtié dans ses rois. Donc voilà, et là, nous dit Saint Grégoire, on voit un grand saint qui chute lamentablement, mais on a encore aussi l'exemple de le voir se relever pour qu'on désespère jamais. Pour que nous, si aussi on chute lamentablement, eh bien, on est le courage et le bonheur de se reprendre. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, qui chutent. Salomon, par exemple, Salomon, c'est le fils donc, du roi David. C'est l'auteur des livres sapientiaux qui sont si remplis de sagesse que la reine de Saba était en admiration. Tout le monde était en admiration devant la sagesse de Salomon. Et petit à petit, il a pris des mauvaises habitudes, il a glissé sur une pente et oh, au fur et à mesure, alors il a commencé par le laisser aller aussi dans les mœurs, et puis de fil en aiguille, il s'est laissé entraîner jusqu'à laisser adorer des idoles sur les montagnes en face de Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'appelle le Monte Modico, le mont maudit, parce qu'ils ont mis des statues d'idoles là. Et il fait chuter lamentablement son peuple, et à cause de lui, il y aura à nouveau la séparation entre Juda et Israël. Et est-ce qu'il s'est repris à la fin? On ne le sait pas. Saint Pédis a voulu qu'il soit mis dans le catéchisme, qu'on pouvait se demander si Salomon était sauvé ou non. Salomon perdu. Après tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, tout ça. Et donc le pape Saint Grégoire nous dit, vous voyez, tous ces modèles nous sont donnés. Quand ils font le mal, ce n'est pas pour qu'on les suive, mais c'est au contraire, comme il dit, c'est pour qu'on se regarde nous-mêmes dans une glace, comme une glace, et puis en même temps pour qu'on soit poussé vers le bien et qu'on soit détourné du mal. Si l'on prend maintenant la parole de notre Seigneur, en correspondance aussi avec celle de Saint Paul, combien de justes et de prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez, c'est-à-dire me voir moi, le Messie, en chair et en os, entendre les paroles que vous entendez, voir les gestes que je fais, combien l'ont désiré et ne l'ont pas vu. Eh bien, quand on lit l'Évangile, quand on le médite, et c'est ce qu'on fait notamment pour dire le rosaire d'une façon riche, eh bien, il faut méditer les mystères. Et pour bien méditer les mystères, il faut aller lire l'Évangile, parce qu'on peut pas ça ne s'invente pas. Et tous les petits détails de l'Évangile sont remplis de richesses. Eh bien, on peut se porter en esprit, comme on peut s'y porter en esprit chez votre oncle ou chez votre tante. Vous vous portez en esprit, vous voyez sa maison, vous voyez... Eh bien, vous pouvez vous porter jusqu'à Bethléem dans la crèche, vous pouvez vous porter à Nazareth, vous pouvez vous porter sur les routes de Galilée et voir notre Seigneur les pieds nus, etc., et méditer l'Évangile. À ce moment-là, c'est plus une méditation, c'est une contemplation. Puis après, on réfléchit pourquoi notre Seigneur fait comme ci et pourquoi il ne fait pas comme ça. Pourquoi la Sainte Vierge est habillée comme ci et pourquoi elle ne s'habillerait pas comme ça, elle. et puis ceci, et puis cela. Et avec ça, on s'imbibe de l'esprit chrétien et on devient chrétien soi-même. Finissons par un point un petit peu plus compliqué, si on veut. Disons, pourquoi saint Paul parle de la lettre et de l'esprit? Eh bien, par exemple, quand notre Seigneur nous dit « Il vaut mieux, si ton œil te scandalise, c'est-à-dire si en regardant des mauvaises choses, ça t'entraîne à avoir des mauvaises pensées et puis à pécher, il vaut mieux que tu t'arraches l'œil et que tu le jettes loin de toi, et car il vaut mieux rentrer borgne au royaume des cieux plutôt qu'avec ses deux yeux aller à la géhenne. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre la lettre de ce que dit notre Seigneur, et puis si j'ai des tentations, je m'arrache l'œil et puis je le jette. Ah, c'est pas ça que notre Seigneur veut dire. Donc, la lettre tue et l'esprit vivifie. Ça veut dire qu'il faut savoir se mortifier le regard, etc., même si ça coûte, comme si on s'arrachait l'œil, de façon à ne pas se laisser entraîner par des spectacles qui nous entraîneraient au mal. Et dans toutes les paraboles, c'est pareil. Notre Seigneur parle d'une manière imagée. Il ne s'agit pas de prendre la lettre des choses. Par exemple, il loue celui qui dit « Combien tu dois à mon maître ?» 100 barils. Mais 50 avant. Toi, tu dois combien? 80. Mais 75. Comme ça, dit-il, il fait habilement et il sera reçu par ceux à qui il aura fait. Notre Seigneur loue l'habileté, il loue pas la malice. Il dit pas, si on prend ça à la lettre, bon alors, ah ben c'est marqué dans l'évangile. Hein. Ah, et il a dit 80, 100, 50, ah, c'est marqué dans l'évangile. Donc si on prend ça à la lettre tue. Et souvent d'ailleurs, c'est terrible d'ailleurs, l'écriture devient à ceux qui sont mauvais. Combien de fois on voit des gens qui citent l'écriture pour justifier des choses mauvaises qu'ils font. Et donc ils le prennent selon la lettre pour faire des choses tordues. Et ça leur devient un lacet, un piège à ce moment-là, parce que pour bien comprendre l'évangile ou quoi, il faut aussi des bonnes dispositions dans le cœur. C'est là que dit « les cœurs purs verront Dieu ». Eh bien, c'est les cœurs purs qui voient bien la vérité aussi, parce qu'ils ne la détournent pas selon leur désir et autres, mais ils la prennent telle qu'il est. Et au contraire, ils mettent leurs sentiments en correspondance avec cette vérité. Je signale rapidement qu'il y a deux sens principaux. Il y a le sens littéral, qu'il faut savoir et autres, parce que ça aide à comprendre le sens spirituel. Et puis dans les livres historiques, ça a son importance aussi. Et après, il y a le sens spirituel. Et dans le sens spirituel, il y a ce qui concerne principalement notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui le concerne en tant que tête, c'est-à-dire lui-même directement, et ce qui le concerne comme corps, c'est-à-dire le corps mystique, l'Église. Et puis, il y a le sens moral qui concerne chaque âme. Et après, il y a certains passages aussi qui concernent spécialement la Très Sainte Vierge Marie comme modèle justement des âmes. Tous ces sens compénètrent et s'interprètent, et souvent, dans un passage, assez régulièrement, il y a un sens littéral, un sens spirituel principal, mais, par exemple, dans les psaumes, vous avez tout le long, vous avez les quatre sens. Donc vous pouvez, dans un sens, ça va signifier une chose, et quelquefois, dans un autre sens, ça va signifier, pas le contraire, mais une chose complètement différente. Et toutes ces choses s'interprètent les unes aux autres, et ça donne une richesse immense à l'écriture qui est exprimée dans un des psaumes. Vous avez parlé une fois et j'ai compris deux fois. C'est-à-dire, Dieu a exprimé une seule parole, mais il y a plusieurs sens que l'on peut en tirer. Eh bien, retenons donc la richesse des Saintes Écritures. On a beaucoup perdu l'habitude de s'appuyer sur la Sainte Écriture. Et cela, c'est venu en partie à cause des protestants. Parce que les protestants ont fait des mauvaises traductions, parce qu'ils ont fait de mauvaises interprétations, parce qu'il y a aussi dans l'Ancien Testament, comme je le disais tout à l'heure, des passages qui sont pas, qui en eux-mêmes ne sont pas édifiants, si ce n'est pour, comme modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en réaction, eh bien, la réaction catholique, ça a été de s'écarter un peu de l'Écriture pour éviter de la mal interpréter et autres. Et c'est compréhensible, mais en même temps, c'est dommage, parce que c'est d'une richesse inouïe. Et dans l'Antiquité, dans les premiers siècles des chrétiens, c'était pas du tout ça. L'Écriture faisait la vie des premiers chrétiens. On a, dans l'office de Sainte Cécile, un passage qui a beaucoup marqué la petite Thérèse, et du coup, elle l'a appliqué à la lettre. Il est dit, alors c'est une manière à la fois littérale et spirituelle de comprendre, elle portait toujours l'évangile en ou sur son cœur. Parce qu'elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, c'est peut-être, elle en avait peut-être quelques manuscrits et autres qu'elle pouvait consulter, mais c'est surtout qu'elle les méditait dans son cœur, comme il est dit aussi de la très sainte Vierge Marie, qui est le grand modèle, et elle le vivait, elle le méditait, et elle l'appliquait. On lit chez sainte Marguerite Marie, mais on le lit aussi dans beaucoup de vies de saints. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cherchait, alors Saint Vincent de Paul par exemple, elle cherchait à imiter le plus possible, à son niveau à elle, selon sa condition de vie, à elle, dans le temps où elle vivait, à rendre le plus possible les actions que faisait notre Seigneur. Et alors la petite Thérèse, du coup, elle avait pris ça, à la fois en esprit et à la lettre, et elle avait un petit évangile qu'elle avait toujours contre son cœur. Voilà, et en même temps, elle le prenait souvent, elle en lisait un passage et elle le méditait avec délice. Et elle est revenue à la voie simple et autre qui est la voie de l'Évangile. Eh bien, prenons la résolution de lire l'Écriture et de la méditer. On n'a pas le droit de la lire dans des mauvaises traductions, on n'a pas le droit de la lire non plus sans avoir des notes des pères, parce que l'interprétation, comme dit Saint Pierre dans son épître, l'interprétation de l'Écriture n'est pas libre. C'est, le Saint-Esprit a écrit ça, il y a une grande richesse, il y a des sens différents, mais des sens légitimes, mais il y a aussi des sens illégitimes. Donc, on doit avoir les interprétations des pères et des saints docteurs, mais c'est une immense richesse. Si vous voulez dire le chapelet comme il faut et le méditer comme il faut, ben, il faudrait lire régulièrement l'Évangile et le méditer. Donc, il faut prendre... Alors, une dernière chose que je voulais vous dire, que je ne veux pas oublier de vous dire, parce que on ne fait bien que ce qu'on aime. Et donc, comment faire pour apprendre à aimer les Écritures? Eh bien, je vous donne le conseil, parce que moi, ça m'a énormément aidé. Je vous donne le conseil suivant. Il y a un bénédictin du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, de l'abbaye de la Source à Paris, qui a écrit de merveilleux petits livres, tout basé d'ailleurs sur l'interprétation des pères, c'est Don de Mauléon. C'est un vrai régal ces livres. Vous prenez le roi David, il vous fait un résumé d'un chapitre ou de tout un épisode de la vie de David, et il le fait d'une façon très savoureuse, très agréable à lire, et après il vous en donne tout le sens spirituel, c'est un vrai régal. Et une fois que vous avez lu Don de Mauléon, qui est assez facile à lire, ça vous donne le goût de ce sens spirituel, et du coup ça vous donnera envie d'aller trouver dans les pères et les docteurs. Encore une chose aussi, parce qu'on n'en finirait pas avec l'écriture. Les Saint Jérôme et Saint Augustin, ils ont eu la même réaction. Ils ont été formés par l'éloquence des anciens, l'éloquence grecque et l'éloquence romaine. Ils avaient étudié les auteurs grecs et latins avec des belles sentences, etc. C'était des textes magnifiques et autres. Oh, ils disent, quand on a commencé à lire l'écriture, oh, c'était sec. Et ça ne leur donnait pas envie d'aller plus loin. Saint Jérôme, il a été formé, entre autres, par Saint Grégoire de Nazianze à Constantinople. Saint Augustin, il a eu le bonheur, poussé par Sainte Monique, sa maman, d'aller trouver Saint Ambroise, et là, il a eu le sens spirituel des Écritures. Tant qu'il restait qu'à la lettre, ça n'avait rien d'agréable. Quand ils sont allés à l'esprit, oh, ils ont trouvé des merveilles, et ils ont écrit des merveilles pour les expliquer. Et Saint Jérôme dit, autant les auteurs, etc., païens, font des belles phrases et tout ça, c'est agréable à entendre, mais finalement, on n'en retient pas grand-chose, si ce n'est que c'était beau et que ça n'accroche pas. Tandis qu'il dit, l'évangile, au début, ça heurte, c'est arrache-toi un œil, et puis jette-le de côté. Et quand on réfléchit au sens et autres, alors là, ça devient d'une richesse profonde et autre, et on aime à s'en nourrir. Eh bien, terminons avec l'exemple de Notre-Dame, dont il est dit à la fin des premiers chapitres de Saint-Luc. Saint-Luc, on dit que c'est le début de l'évangile de Saint-Luc, on l'appelle l'évangile de la Sainte Vierge, parce qu'il n'était pas là pour voir tout ça. C'est Notre-Dame qui lui a raconté comment tout s'était passé. Et il dit à la fin, « Et Marie, réfléchissez à toutes ces choses, les méditant en son cœur. » Eh bien, demandons à Notre-Dame cette grâce de comprendre la richesse très grande des Saintes Écritures, qui est la parole même de Dieu, et de nous en imbiber et de l'imiter, nous aussi, en la méditant dans notre cœur, et notamment en récitant le chapelet quotidiennement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.